en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci de l'invitation de parler ici. Étant donné le temps, je vais parler d'un problème sans en donner la solution. En fait, le problème est insolvable, je pense. Il s'agit du triangle de pouvoir et de tension entre les banques d'affaires, la Banque centrale européenne et les gouvernements nationaux au sein de l'Union monétaire européenne. D'un côté, les banques d'affaires sont une partie intégrale du système monétaire. Pour deux raisons. Les dépôts bancaires sont la base des transactions que nous tous faisons. Donc, deuxièmement, les crédits des banques d'affaires envers les ménages et les entreprises non financières sont une partie très importante, une partie centrale du mécanisme de transmission de la politique monétaire. Donc, la Banque centrale européenne dépend des banques d'affaires et de leur fonctionnement pour sa politique. Ce qui expose la Banque centrale européenne à un certain potentiel de chantage. Et en fait, on a vu certains aspects de ce chantage dans les années 12-13, de façon que des gouvernements et des autorités de supervision nationale avaient intérêt à maintenir des banques faibles pour avoir accès au crédit de la Banque centrale européenne envers ces banques. Et ces crédits étaient transformés en prêts aux gouvernements nationaux directement. Alors, l'union bancaire a été créée pour couper le lien entre autorités nationales et banques d'affaires et pour éviter l'extension des banques faibles, sinon en banqueroute déguisée. Alors, d'un autre côté, il faut voir que les banques, comme source de monnaie, ont toujours une importance politique au sein du régime national. Il y a un intérêt fondamental de l'État dans ces banques. D'une part, pour le financement de l'État même, d'une autre part, pour des raisons de politique industrielle, champions nationaux, etc. D'autre part aussi, parce que les créanciers des banques ont acquis un pouvoir politique assez remarquable. Et là, je parle non seulement de la masse des dépositaires petits, mais aussi des grands investisseurs qui ont des influences significative. On a vu cela en Allemagne dans le cadre de Hypo Real Estate, où les vrais intérêts, les intérêts puissants provenaient de toutes sortes d'institutions sociales éminentes. On l'a vu aussi dans le cas de Monte dei Paschi di Siena, où il y a eu la même chose. Les élections italiennes ont démontré la dissatisfaction de l'électorat national avec les mécanismes imposés par l'Europe. L'obligation des créanciers de participer dans les pertes n'est pas acceptée du point de vue politique. L'intervention des mécanismes de supervision et des mécanismes de résolution des banques n'est pas accepté au niveau national. Donc, on a un conflit essentiel entre l'intérêt national de la politique nationale et la légitimité de la politique nationale concernant les procédures envers ces banques et d'autre part l'intérêt de la Banque Centrale Européenne d'avoir des banques fonctionnantes où les banqueroutes déguisées ne sont pas maintenues pour trop longtemps. Les banques supranationales seraient une façon de sortir du problème, mais je ne vois pas vraiment que les souverains nationaux acceptent d'être soumis au pouvoir de ces institutions supranationales, ni pour la France, ni pour l'Allemagne. En plus, au niveau supranational, on aurait un problème de légitimation politique des autorités, problème qu'on voit déjà pour la Banque Centrale Européenne pour certaines de ses interventions. Donc, il y a deux grands devoirs qu'il faudra remplir. D'un côté, générer plus de légitimité politique au niveau supranational, et là, les initiatives françaises sont très bienvenues. D'un autre point de vue, éduquer les participants du débat politique à respecter les risques pour le système en général qui proviennent d'un comportement assez égoïste qui franchit les limites posées par le respect du système. Et sur ce dernier point, il y a beaucoup de choses à faire.
Merci beaucoup, cher confrère. Merci beaucoup pour cet exposé remarquablement clair et concis et qui donnerait à l'historien beaucoup de motifs, de souvenirs et de remarques, mais je m'en dispenserai. Mais j'ai beaucoup apprécié, cher confrère, votre présentation. Et je donne maintenant la parole à notre confrère Jean Béchler. Dans cette maison, on ne vous présente pas, donc nous allons entrer immédiatement in medias res. Vous allez nous parler, dans le cadre du programme de l'année, du sujet suivant, la différence entre politique extérieure et relations internationales, le cas de la France. C'est une question essentielle qui va nous forcer, je pense, à prendre un peu de recul par rapport à l'actualité. C'est ce que nous souhaitions tous les deux. Cher confrère, cher ami.
Merci, monsieur le président, monsieur le chancelier, etc. En 1494, Charles VIII entre en Italie à la tête d'une forte armée, déclenchant ainsi ce qu'on appelle les guerres d'Italie. En 1629, Richelieu, qui est au pouvoir depuis 1624, adresse à Louis XIII un avis au roi après la prise de La Rochelle, où, en substance, il développe la thèse suivante, définissant une politique française à l'échelle de l'Europe. Premièrement, il faut avoir le dessein perpétuel d'arrêter le cours des progrès d'Espagne. Deuxièmement, pour parvenir à ce résultat, la France ne doit penser qu'à se fortifier en elle-même et bâtir et s'ouvrir des portes pour entrer dans tous les États de ses voisins. En conséquence, il y en a trois fondamentales. Il faut raser toutes les places qui ne sont point frontières. Deuxièmement, ruiner le parti huguenot. Troisièmement, rabaisser l'orgueil des grands. Et quatrièmement, réduire tous les sujets en leur devoir. Autrement dit, c'est la définition de la future monarchie bureaucratique au service d'une politique extérieure que je vais définir comme soumise à un système de jeu définissant des relations internationales. En effet, je répute que l'expédition de Charles VIII relève d'une grille de lecture en termes de politique extérieure. Bien entendu, les mots n'ont aucune espèce d'importance, ce sont ce à quoi ils font référence qui compte, alors que le mémoire de Louis XIII, qui est très, très, très long, il fait plus de 70 pages, relève, à mon sens, d'une grille de lecture en termes de relations internationales. Quelle est la différence spécifique entre ces deux grilles ? Je définis la politique extérieure comme une stratégie à l'extérieur d'une politique définie sous la pression de facteurs internes, quels qu'ils soient, alors que les relations internationales désignent une stratégie envers l'extérieur imposée par les contraintes d'un système de jeu extérieur. Ce qui a pour conséquence que l'alternative est unique entre une politique extérieure accordée aux contraintes extérieures et imposant des contraintes internes, autrement dit une politique extérieure rationnelle, et une autre qui est en discordance avec la logique et la rationalité du système de jeu et qui, par conséquent, peut être définie comme irrationnelle. Je vais essayer d'illustrer à l'occasion de la France, comme politique européenne, la différence historique à l'échelle du millénaire de ces deux manières de lire les actions de la France à l'extérieur. Je le ferai en deux étapes, extrêmement simples. Ça relève du manuel de l'école primaire, tout ce que je vais vous dire, et donc devrait vous évoquer des souvenirs d'école. Je peux donc me contenter de simples allusions. Je commencerai par vous proposer un certain nombre d'exemples qui entrent dans ce champ d'analyse et qui concernent le deuxième millénaire, puisque la France, selon les historiens, du moins un historien allemand, qui m'a entièrement convaincu, brûle qu'on peut parler de France, d'Allemagne et d'Angleterre, mais il a surtout étudié la France et l'Allemagne, à partir du troisième quart du XIe siècle. Avant, ça n'a pas grand sens. À partir de la fin du XIe siècle, lorsqu'on dit « Royaume de France », cela veut dire quelque chose. Et dans un deuxième temps, j'essaierai de saisir la différence dans la conjoncture historique actuelle. Bon. Donc, voyons quelques points d'histoire, et d'abord en termes de politique extérieure. Alors, les exemples ne sont pas surabondants, parce qu'il se trouve que dès les origines de la fin du XIe siècle, la France a été entièrement engagée dans des systèmes de jeu successifs qui lui ont imposé des relations internationales en termes d'une alternative entre politique rationnelle et politique irrationnelle. En conséquence, la politique extérieure telle que je l'ai définie a toutes les chances d'être illustrée pour l'essentiel par des aventures, et des aventures de deux types. D'une part, des aventures mégalomaniaques, et d'autre part, des aventures décidées par un souci de revanche à la suite d'humiliations, sur la scène internationale, bien entendu. Alors, voici quelques illustrations. D'abord, des rêveries mégalomaniaques. Premier exemple sera Saint-Louis et les 7e et 8e croisades. La 7e, 1248 à 1254 en Égypte, catastrophe. La 2e, en 1270, Tunis, catastrophe, il y reste la vie. Les deux propos étant de convertir le monde musulman au christianisme. Une rêverie, enfin absurde, qui met fin aux croisades, d'ailleurs. Il n'y aura plus de croisades après ça, parce qu'on a compris que ce n'est peut-être pas le moyen d'y arriver. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un autre. Deuxième exemple sont les guerres d'Italie. Charles VIII, tout jeune, il a 24 ou 26 ans, C'est une sorte de Don Quichotte sur le trône de France. En effet, il rêve des exploits de Charlemagne, des exploits évidemment réinterprétés par la légende et qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'histoire. Et donc, il veut partir à la conquête du royaume de Naples, parce que les circonstances s'y prêtent, afin de s'en servir comme point d'appui pour la reconstitution et la restauration de l'Empire d'Orient et, bien entendu, là aussi, d'éliminer le danger, pas seulement le danger, mais l'existence même du monde islamique. Alors, pour préparer cette expédition absurde, il commence par céder l'Artois et la Franche-Comté à Maximilien d'Autriche et le Roussillon à Ferdinand d'Aragon pour assurer ses arrières. C'est très exactement ce qui va occuper tout le règne de Louis XIV pour récupérer ces territoires qui ont été cédés comme ça à Charles VIII, enfin, sans la moindre compensation. Les conséquences sont monstrueuses pour l'Italie. C'est la rupture d'un équilibre italien extrêmement stable. Je vous renvoie au chapitre 1 de l'histoire d'Italie de Guy Chardin, qui est un pur chef-d'œuvre d'analyse en termes de relations internationales et pas de politique extérieure. Et il montre de manière convaincante que cet équilibre italien a été rompu définitivement jusqu'au XIXe siècle par Ludovic le Mort de Milan, qui a cru bon d'introduire l'armée française pour s'emparer du pouvoir sur toute l'Italie, ce qui était rigoureusement impossible. Autre conséquence beaucoup plus importante pour le royaume de France, c'est l'hostilité durable de l'Autriche et de l'Espagne, appuyée par l'Angleterre, d'où une hégémonie Habsbourg, qui entraîne comme conséquence le fait que l'Angleterre s'allie à la France, mais surtout qui vaut à la politique extérieure française d'introduire le monde ottoman en 1536 dans le concert des polities européennes, ce qui aura des conséquences à long terme. Autrement dit, une politique totalement absurde, enfin, qui a des conséquences à très long terme. Troisième exemple, les guerres de la Révolution et de l'Empire et la conquête d'un empire français ou corse, enfin bon, en tout cas d'un empire rigoureusement impossible à tenir sur le long terme et qui a des conséquences remarquables, l'actualisation de l'hégémonie anglaise, la mise en route de la future hégémonie allemande et la fin irréversible de l'hégémonie française. Dernier exemple, l'expédition du Mexique, un pur chef-d'œuvre de stupidité, qui dure tout de même de 1861 à 1867. Napoléon III avait dans l'idée de rétablir l'équilibre du Nouveau Monde contre la puissance montante des États-Unis occupée à la guerre civile à l'époque, autrement dit, renverser la doctrine de Monroe. Rigoureusement impossible, du moins, n'était pas dans les moyens de la France à elle seule. Alors, bien entendu, l'expédition du Mexique a des côtés, disons, moins grandioses, et en particulier Morny, qui soutenait la créance, Yeka, je crois, J-E-C-K-E-R, un banquier suisse qui avait prêté à Miramón, qui était président ou je ne sais pas quoi, enfin, le chef du Mexique, 750 000 dollars qui devaient être remboursés par la somme de 15 millions de dollars. Donc un bénéfice assez intéressant. Et Morny y était pour 30%. Donc il avait poussé à la roue de l'expédition du Mexique parce que le successeur de Miramón, Juárez, avait refusé catégoriquement de rembourser un seul dollar. Donc l'honnêteté financière était concernée. Quelques exemples de ce que j'appelle des revanches pour essuyer des humiliations. Il y a le soutien à la Révolution américaine, par Louis XVI, ou du moins par certains de ses ministres qui ont poussé à cette politique, qui devait essuyer l'affront de la guerre de 7 ans que la France avait perdue et donc de la paix de Paris, qui s'était soldée par la perte de l'Inde et du Canada, excusez du peu, et par la reconnaissance de la supériorité dorénavant de l'Angleterre. Autre exemple, l'expédition d'Espagne en 1823, l'expédition d'Alger en 1830 avait tout de même comme arrière-plan ou arrière-fond moral 1815, Waterloo, le congrès de Vienne. Les conquêtes coloniales après la guerre de 1871 ont là aussi une très forte saveur de revanche à prendre contre cette défaite jugée humiliante et qu'il était à beaucoup d'égards. Et enfin, je pense qu'on peut ranger dans cette même catégorie la guerre d'Indochine, devait venger ou du moins essuyer la défaite, certes celle-là vraiment humiliante, de 1940. Alors tous ces exemples sont discutables, mais je pense qu'il est indispensable d'introduire ces dimensions dans toute tentative d'explication. Alors tout historien sait, c'est le béaba de l'analyse historique, que la proposition « si A alors B » ne s'applique jamais. Autrement dit, il ne faut jamais penser en termes de cause-effet, mais en termes de facteurs. X égale F de A, B, C, D. Et parmi ces facteurs de la parenthèse, il faut, me semble-t-il, tenir compte de la mégalomanie ou de l'humiliation et de la revanche. Passons à ce qui est peut-être un peu plus, non pas compliqué, mais peut-être plus intéressant. Des exemples en termes de relations internationales, au sens où je les définis. Pour avancer dans cette direction, il faut, me semble-t-il, distinguer 4 jeux théoriques. Un jeu monopolaire, un jeu dipolaire, dit tri ou tétrapolaire, ça revient à peu près au même, un jeu polypolaire et un jeu oligopolaire. Alors, pour chacun de ces jeux, je vais commencer par en définir la nature, par en tirer la logique, par vérifier si la politique française a été, à travers l'histoire, conforme à cette logique et, par conséquent, a été une politique rationnelle, ou bien s'il y a des exemples d'aberration, c'est-à-dire de désaccord avec la logique et donc de politique irrationnelle. Alors, il se trouve que, ça, je ne l'ai pas fait exprès, que chronologiquement, la France a été successivement engagée dans un jeu polypolaire, puis dipolaire et enfin oligopolaire. Alors, on peut isoler une parenthèse monopolaire, à savoir l'aventure de la Révolution et de l'Empire et la tentative d'unifier par la guerre l'Europe, mais qui n'a duré, qui a tenu que combien 9 ans, quoi, à peu près. Oui, c'est à peu près ça. Bon. Alors, voyons d'abord le jeu polypolaire. Le premier en date. La définition doit porter sur poly, polus, beaucoup. Combien ? Bon, évidemment, il n'y a pas de chiffres mathématiques, on n'est pas ici dans la mécanique quantique. Il en faut, si vous voulez, 10 à 20, et surtout, et c'est le critère principal, il faut qu'aucune des politiques engagées dans le jeu ne soit assez puissante pour l'emporter sur toutes les autres ou même sur une coalition de tous les autres. Autrement dit, toutes les politiques sont impuissantes et incapable de renverser, de grandes ambitions à l'échelle du système. Alors, quelle est la logique de ce jeu ? Premièrement, il est impossible de définir des règles du jeu et encore plus de les faire respecter. Deuxièmement, chacun, est à la merci d'un agresseur, parce que personne ne peut compter sur le dévouement d'une autre politique pour venir à son secours, puisque l'agresseur pourrait se diriger d'abord contre celui qui vient en aide. C'est la situation des voyageurs dans une rame de métro lorsqu'un malfrat s'attaque à un voyageur. Les autres ont une tendance fâcheuse à ne pas bouger parce qu'ils n'ont pas le temps de s'entendre entre eux pour adresser une riposte collective à cette agression. Et donc chacun fait le calcul, je risque d'y passer si personne ne vient à mon aide. C'est cette situation-là. Conséquence. Chacun doit attaquer dès qu'il se sent en position de force relative pour ne pas se retrouver en position de faiblesse relative et être attaqué par quelqu'un d'autre. Conséquence, la guerre est permanente et perpétuelle, dont il résulte des vainqueurs et des vaincus, à l'échelle des siècles en tout cas, et l'émergence finale d'un vainqueur utile, parce qu'il a été plus prudent, plus habile, plus chanceux, plus résolu, ou bien qu'il bénéficiait d'avantages objectifs. Un petit rien peut suffire, un guet, le contrôle d'un guet peut suffire, ou un territoire plus facile à défendre. Qu'en est-il de la France dans un cadre polypolaire? Eh bien, c'est très exactement la situation où s'est retrouvée la dynastie capétienne dans la féodalité issue de la décomposition de l'Empire carolingien. Cette dynastie, originaire de la France, ce tout petit territoire au nord de Paris, en Île-de-France, il y avait des liens de parenté avec les Carolingiens, mais c'était rien, les Capets. S'il y a eu Capet, 987, c'est rien en termes de puissance développée. Eh bien, pendant plusieurs siècles, ils ont procédé à des conquêtes pas à pas à partir de ce noyau central d'Île-de-France. La première émergence d'une politique consistante et pouvant mobiliser une puissance significative, comme on dit de nos jours, se voit sous Philippe Auguste, 1180 à 1223, et la consolidation est acquise avec Philippe IV le Bel entre 1285 et 1314. Chose remarquable, cette dynastie a été, comment dire, bénie par le ciel de deux côtés. D'abord, les reines ont été fécondes de génération en génération et ont procuré à chaque génération un héritier mâle, ce qui a permis d'assurer la continuité. Et d'autre part, on n'a pas les documents suffisants, mais ils ont été prudents, raisonnables, rationnels, et ont su calculer, si vous voulez, les forces qu'ils étaient capables de développer. Alors, il y a un seul faux pas irrationnel qui a été effectué par Philippe III en 1285. Philippe III est le fils de Saint-Louis, je crois, oui, fils de Saint-Louis, qui a cru bon, sur les instigations et les insistances de son oncle Charles d'Anjou, qui était effectivement le frère de Saint-Louis, d'entrer en guerre avec l'Aragon à propos de la Sicile. C'est une suite des vêpres siciliennes en 1282. Alors, bon, ce brave Philippe III était probablement très gentil. Il est allé en Aragon, s'est fait battre à plate couture, il est reparti et mort en cours de route. Bon, une catastrophe pure et simple. Il a dévié, il n'avait rien à faire en Aragon, tout simplement, il a dévié de la prudence des Capétiens. Exemple de jeu dipolaire. Dans ce jeu, chacun des deux joueurs peut développer une puissance équivalente. Donc, elle est soit développée, soit latente, je n'entre pas dans les détails. Alors, des jeux à 3 ou 4 peuvent être ramenés à des jeux à 2 par des systèmes d'alliance. Alors, quelle est la logique du jeu? Bien, le point d'appui central est que celui qui gagne, gagne tout, que ce soit en termes de puissance ou de sécurité. En conséquence, chacun a intérêt à gagner. La stratégie dominante est offensive. Dès qu'on se sent en position de force, il faut attaquer, même si on est parfaitement pacifique et si on aspire à la paix. Il faut attaquer parce que si on gagne, ben la paix est assurée puisque la politique vaincue est soit totalement désarmée, soit absorbée, ce qui a été le cas général à l'échelle des millénaires. Autrement dit, on a un jeu à somme nulle de tout ou rien, sans position d'équilibre stable. Il résulte donc une lutte à mort jusqu'au triomphe définitif d'un joueur contre l'autre. L'exemple classique, enfin, c'est Rome-Carthage, mais il y en a de nombreux autres. Toute l'Asie antérieure, depuis Sumer, a été intégrée à un système de jeu de cette nature, non pas à deux en général, mais à trois ou quatre. Qu'en est-il de la France ? Eh bien, c'est la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, en fait, ce 100 ans de guerre entre 1329 et 1453, contre l'Angleterre, dont la France sort vainqueur après des péripéties très, très douloureuses pour la fierté nationale, mais en même temps illustrée par l'aventure tout à fait stupéfiante de Jeanne d'Arc, enfin, qui, effectivement, a contribué puissamment à bouter les Anglais hors du royaume de France. À la suite de 1453, bataille de Castillon, la bataille, les Anglais sont chassés du continent. C'est le point d'origine de la fortune et de la grandeur de l'Angleterre, qui n'avait plus à mobiliser des forces sur le continent et qui pouvait se concentrer sur l'absence totale de ressources dans les îles britanniques, ce qui les a obligés à faire preuve d'énergie, d'invention, de travail et à chercher le succès sur la mer et à déterminer ce qui est la politique extérieure fondamentale de l'Angleterre, c'est-à-dire tout faire pour qu'il n'y ait jamais d'unification politique du continent européen. Et c'est toujours la politique de l'Angleterre plus que de la Grande-Bretagne. Et donc l'Angleterre a, dès la fin de la guerre des Deux Roses, appuyé systématiquement un jeu oligopolaire sur le continent. Alors je ne vois pas, pendant ces deux siècles, 14e et 15e, effroyables à tous égards, c'est les deux siècles les plus noirs dans tous les domaines de l'histoire européenne, et c'est en même temps là que tout se met en place et que les premiers symptômes de la modernité future apparaissent, et en particulier de la modernité politique. Et je ne vois aucune erreur, enfin, de la part des dirigeants français. Ils ont été impuissants. Charles VI était fou. Alors bon, et puis Louis VII n'était pas sûr de sa légitimité. Il lui a fallu Jeanne d'Arc, enfin, pour asseoir sa position. Mais il n'y a pas eu d'erreur au sens d'une politique irrationnelle. Le jeu oligopolaire. Alors, il se joue à quelques joueurs, à mon avis, mais pas à mon avis, enfin, historiquement, il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce jeu. C'est de 5 à 7 joueurs dont le caractère essentiel qu'aucun n'est supérieur à la coalition de tous les autres. On est déduit immédiatement la logique, il est impossible de gagner. Donc la stratégie dominante est une stratégie de dissuasion, ou bien qui vise à ne pas perdre et non pas à gagner. Donc la stratégie dominante est de nature défensive. Et donc il faut opposer à toute menace hégémonique des alliances à même de ne pas perdre et donc de gagner, puisqu'en ne perdant pas, on gagne. Alors, si on se retrouve en position pseudo-hégémonique, c'est-à-dire si on est perçu par les autres comme étant une menace hégémonique, ce qui a été le cas de la France en particulier au XVIIe siècle sous Louis XIV et bon, jusqu'à 1763 en Europe. On voit s'opposer à soi la coalition de tous les autres avec l'appui de l'Angleterre. Bien, dans ce cas, il faut manœuvrer de manière à opposer une puissance suffisante pour ne pas perdre. Pas perdre au sens définitif du terme, c'est-à-dire d'être éliminé du jeu. Ça a été tout juste à la fin du règne de Louis XIV. Enfin, les différentes défaites de la guerre de succession d'Espagne, de l'épuisement de la France, hein, ont été sur le fil du rasoir. La France n'aurait pas été éliminée, mais enfin, c'est elle qui était en position hégémonique. Autrement dit, la logique du jeu vise l'équilibre, garantit l'acquis et repose sur une variabilité perpétuelle des alliances, puisqu'il s'agit de réussir l'équilibre. Alors, qu'en est-il de la France dans ce système oligopolaire qui se met en place progressivement après 1453 ? Très progressivement tout au long du XVIe siècle, c'est évidemment les traités de Westphalie qui officialisent le concert des nations européennes et surtout à partir d'Utrecht que les chancelleries, si vous voulez, jouent explicitement, consciemment et délibérément ce jeu d'équilibre. Alors qu'en est-il de la France ? Eh bien, après les désastres des guerres d'Italie, Pavie 1525, même le roi de France est prisonnier pendant plusieurs années à Madrid. Un peu banal. François Ier, libéré après rançon, se convertit à la logique oligopolaire contre les Habsbourg. Autrement dit, c'est la préscience de la politique de Richelieu. En nouant des alliances avec l'Angleterre en 1528, avec les princes protestants d'Allemagne en 1532 et avec les Turcs en 1536. Autrement dit, ils se conforment à la logique du jeu. À partir de là et jusqu'en 1914, la politique extérieure française tend à suivre fidèlement les indications de la logique des relations internationales, et elle a une très grande apparence de rationalité. Alors, bien entendu, cela ne s'est pas fait sans heurts et, disons, sans chaos, mais pour l'essentiel, c'était conforme aux indications du jeu. Alors, y a-t-il eu des dérapages ? Ben oui, il y a eu les aventures que j'ai évoqué tout à l'heure, dont la pire, à mon sens, a été l'Empire. Et puis, il y a les humiliations, dont la pire a été, à mon sens, c'est pas à mon sens seulement, le traité de Versailles, qui a été conçu pour punir l'Allemagne, alors que l'esprit de la paix européenne ne consistait pas à punir le vaincu, mais au contraire à négocier avec lui de manière à restaurer l'équilibre ou à renforcer l'équilibre. D'où les traités de Vienne de 1814, qui est tout à fait extraordinaire. La France a mis l'Europe à feu et à sang d'une manière tout de même abominable pendant très exactement 22 ans. Et en 1814, le congrès de Vienne, qui ne se termine pas parce qu'il y a les 100 jours, inflige à la France, je crois, une petite correction de frontière du côté de Mulhouse, il me semble. Enfin, ça ne va pas beaucoup plus loin. Alors, on en remet une couche supplémentaire pendant 100 jours en 1815, mais la punition, il n'y a pas de punition à proprement parler, hein, parce que l'équilibre européen a besoin de la France. Et donc, bon, il y a l'occupation de Paris, ça ne va pas très loin. Donc, 1919 est une aberration au sens d'une position irrationnelle, car elle s'oppose, elle n'est pas en accord avec la logique du jeu. Voilà quelques évocations, si vous voulez, de l'histoire à l'extérieur de la politique française pendant 9 siècles. Quoi. Alors, plus rapidement, parce que c'est assez simple, la politique extérieure de la France aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Eh bien, dans un système de jeu devenu planétaire, et ce, de manière irréversible. Donc, le sujet, si j'ose dire, soulève 3 questions distinctes. Quelle est la nature du jeu ? Et donc, quelle est la logique de la situation planétaire ? Quelle est la logique à l'œuvre ? Deuxièmement, quelle politique extérieure pour la France en fonction du jeu défini ? Une politique soit rationnelle, qui épouse la logique du jeu, soit irrationnelle, qui enfreint la logique du jeu. Et troisième question, reste-t-il place pour une politique extérieure indépendante du système de jeu, c'est-à-dire indépendante des relations internationales, qui ne soit pas une nuisance, mais qui soit une politique extérieure rationnelle ? Alors d'abord, nature et logique du jeu planétaire. Alors 2 hypothèses s'imposent, et je n'en vois que 2. Soit, et c'est pour moi la moins probable de très loin, un dipôle États-Unis-Chine, qui a la préférence des États-Unis et de la Chine pour des raisons évidentes, des analystes et des journalistes aussi, parce que c'est beaucoup plus facile à analyser et à commenter qu'un système plus compliqué. Mais ce n'est pas impossible, mais ça me paraît très improbable. Le plus plausible me paraît être un oligopole composé des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, de la Russie, avec d'un point d'interrogation le Brésil, et les candidatures potentielles de l'Europe et purement virtuelles à l'échelle du XXIe siècle, de l'Asie antérieure et de l'Afrique subsaharienne. Alors, quelle est la logique ? Eh bien, je l'ai déjà énoncé, la logique dipolaire est celle d'un jeu à somme nulle, sans position d'équilibre, donc une alternative et une alternance entre une guerre ouverte, peu probable, mais pas impossible, et ce qu'Aaron a très joliment appelé une paix belliqueuse, ce qui est la situation la plus probable, c'est-à-dire on se bat par tous les moyens, sauf les moyens militaires les plus directs, parce qu'ils ont atteint un tel degré de nuisance en termes de destruction qu'on ne peut guère envisager un recours à ces armes directes et délibérées. C'est plutôt le résultat d'une crise mal gérée ou d'un accident. Mais enfin, un fou peut toujours arriver au pouvoir. Au contraire, dans une logique oligopolaire, on a des équilibres fluctuants, des crises mal gérées et surtout du droit international, c'est-à-dire le poids respectif de la guerre et de la diplomatie domine les relations internationales dans un tel système, comme ils ont dominé le système de l'équilibre européen pendant plusieurs siècles. Le droit international est une production européenne de cette logique oligopolaire. On ne peut pas exclure que grâce à la diplomatie et à la pression des problèmes à l'échelle planétaire, on assiste à l'échelle des siècles, 21e, 25e, j'en sais rien, personne ne connaît l'avenir, à une marche chaotique sur la voie d'une gouvernance planétaire à inventer, parce qu'il est hautement improbable que ça prenne les formes que nous connaissons depuis 10 à 12 000 ans. Alors, dans ce cadre, soit l'un, soit l'autre, quelle peut être la politique extérieure française ? Alors, en cas de dipolarité, l'alternative est unique et impérative. Il faut rallier l'un des 2 pôles. Sinon, on n'existe pas et on risque d'être écrasé. Alors, faut-il choisir plutôt les États-Unis ou la Chine ? Bon, la réponse paraît évidente, mais on ne connaît pas l'avenir. Il n'y a pas de troisième voie. Elle n'existe pas, c'est une illusion idéologique. Par conséquent, les capacités de nuisance de la France sont trop faibles pour peser sur le jeu planétaire. Cela rappellerait la situation des débuts de la Ve République qu'à la recherche d'une troisième voie et d'un balancement entre États-Unis et URSS. Bon, c'était irritant pour les uns ou pour les autres, ou pour les deux, mais ça n'a absolument rien changé à l'issue finale. Ça devient plus intéressant en cas d'oligopolarité. En effet, en elle-même et par elle-même, la France est exclue d'un tel jeu planétaire, de même que tous les autres pays d'Europe, quels qu'ils soient. Aucun n'est assez puissant, même potentiellement, pour peser sur l'équilibre planétaire. La seule possibilité qu'ont les Européens d'échapper au statut d'objet de l'histoire universelle et d'en devenir des sujets, c'est-à-dire de contribuer positivement ou négativement, d'ailleurs, à cette histoire universelle qui se déroulera pendant N siècles ou N millénaires, ce qui est beaucoup plus probable, la seule possibilité est de constituer la plaque culturelle européenne, disons de Brest à Brest-Litovsk et du Cap Nord à Malte, en une politique en bonne et due forme, c'est-à-dire en une entité équipée des dispositifs et des procédures permettant de décider et d'agir en acteur collectif. Non, ça n'a rien d'original, mais ce n'est pas parce que c'est une vérité première ou une banalité que c'est faux. C'est une vérité dont il faut partir. Une première conséquence est moins évidente, à savoir que la finalité de la construction européenne n'est ni la paix entre Européens, ce qu'on nous a dit pendant 50 ans, ni la prospérité économique et encore moins, ce sont des bénéfices secondaires ou des ruses de l'histoire pour induire les Européens à se lancer dans l'aventure de la construction européenne. La seule finalité rationnelle, c'est-à-dire justifiable théoriquement et pratiquement, est, je le répète, l'instauration d'une politique capable de jouer le jeu oligopolaire à l'échelle de la planète. Alors, dans le cadre de référence planétaire, la France n'a que la construction européenne comme politique extérieure rationnelle. Mais une Europe européenne, et pas une Europe française qui serait au service de la grandeur de la France. Parce que c'est supposé que les autres seront assez bêtes pour ne pas s'en rendre compte. Ils ne le sont pas suffisamment et ne le seront jamais. Et ce serait bloqué complètement. Or, inventer une Europe européenne ne va pas de soi, parce que l'Europe est une plaque culturelle, une ère civilisationnelle tout à fait objective, réelle, mais n'a jamais été constituée en une politique européenne. Et donc nous avons tous, sauf si on fournit l'effort suffisant, une vision nationale, si vous voulez, ou particulière, ou régionale, de l'Europe, des visions françaises, allemandes, italiennes, et ainsi de suite. Non, il faut essayer d'inventer, de diffuser une Europe européenne. Ça peut prendre des siècles. La Suisse s'est construite en 550 ans. Ça pourrait aller plus vite, mais rien ne le garantit. Alors, qu'est-ce qui reste comme possibilité d'une politique extérieure indépendante? Eh bien, au vu des contraintes du jeu planétaire, une politique extérieure française indépendante ne peut être que soit irrationnelle, chercher une troisième voie hors de la dipolarité, ça n'existe pas, tout simplement, ou bien s'opposer à la création d'une politique européenne, c'est évidemment une politique possible, irrationnelle, ou bien viser une Europe française et non pas une Europe européenne, ce qui, à mon avis, est le problème le plus fondamental. Alors, il reste, et ça c'est rationnel, ce que notre chancelier a défendu avec brio, c'est-à-dire une politique culturelle, que l'on pourrait définir comme la contribution en tant que France à la production et à l'exploration d'un champ de possibles culturels, planétaires et inédits. Là, on peut effectivement y contribuer. Alors, on peut également vendre des sacs pour dames. Enfin, bon, ça fait partie de la politique économique. Alors, deux mots de conclusion. L'hypothèse que j'ai essayé de défendre se veut strictement scientifique. Donc, elle doit être vérifiée à partir des données historiques. Alors, j'ai pris le cas de la France parce que vous me l'avez imposé, que c'est le thème de l'année. Bien entendu, ça doit se faire à l'échelle générale et sur 10 bons millénaires. Et bon, je crois que ça marche. Quoique des systèmes oligopolaires soient très rares. Il y a le monde tribal qui s'inscrit dans ce champ-là, mais d'une manière tout à fait différente et tout à fait passionnante. Bon, un autre problème. Mais on peut également en tirer des conclusions ou des enseignements éthiques adressés aux acteurs qui sont engagés dans l'action ou qui, en tant que citoyens, ben, sont engagés dans l'action, même si c'est à l'échelle homéopathique, eh bien, c'est de la responsabilité de chacun d'être aussi rationnel que possible et donc de s'informer des grilles de lecture qu'imposent les hypothèses scientifiques. Donc, il n'est pas interdit aux acteurs historiques d'être savants. Ils doivent toujours être intelligents et rationnels, mais il n'est pas inutile qu'ils soient aussi rationnels. Autrement dit, l'analyse scientifique permet, me semble-t-il, d'avancer des critères exploratoires pour juger d'une politique extérieure en termes de rationalité ou d'irrationalité. C'est un thème qui m'obsède de plus en plus. Y a-t-il des critères objectifs pour distinguer dans tous les domaines l'irrationnel du rationnel, parce que j'ai le sentiment, peut-être de vieillard sénescent, à moins d'être sénile déjà, que nous sommes submergés par une vague d'irrationalité. Je vous remercie pour votre attention.